penche la guitare, penche la guitare, penche la guitare.
1, 2,
penche la guitare.
3, 4.
Je dois vous dire que tout ça fait un peu bricoler.
Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'esthétique, mais la science créatrice et la connaissance technologique.
Les empreintes musicales. Franck Amouroux.
Bonjour et bienvenue, je suis Franck Amouroux dans cette émission Les empreintes musicales pour une durée de 30 minutes qui est consacrée cette deuxième semaine à Nino, le responsable de la structure touristique à l'ouest située à Locmaria-Bérien. Au tout début du Finistère, sur l'ancienne ligne de chemin de fer Morlaix-Carhaix en centre-Bretagne, Nino a repris l'activité de location de roulottes par traction animale, le cheval. Le site d'exploitation est concentré sur 6 hectares autour de l'ancienne gare ferroviaire. Plusieurs bâtiments jalonnent ça et là le vaste espace. Une partie prairie pour les chevaux, un petit enclos grillagé tout rond pour que les pensionnaires de la petite basse-cour puissent gambader. Une immense remise et lieu de stockage des roulottes, l'ancien hall de gare originel, un ancien entrepôt transformé en salon d'accueil. La partie privative où Nino élève avec sa femme leurs 3 jeunes bichettes. En face, on découvre une rangée de petits bâtiments transformés en ateliers de travail du cuir et du fer. Puis enfin, la partie sanitaire, douche, toilette, bac à vaisselle pour les vacanciers en étape ou en retour de balade.
Les empreintes musicales.
Alors bonjour Nino, deuxième épisode de ton parcours.
Oui, bonjour Franck.
On est toujours dans cette gare à Locmaria-Bérien, réhabilitée il y a déjà 40-50 ans, là, bientôt. On découvre, là, on était dans votre partie
cuisine
qui était à l'origine.
Ouais, c'était la cuisine de la gare. Hein.
C'était quand même la cuisine de la gare.
Ouais, bien exposée, plein sud. Effectivement, c'était la cuisine. Et là, on est passé dans le hall d'accueil, ce qui servait de pas perdu pour les gens qui étaient en attente d'un train en direction de Carhaix ou de Morlaix. Donc effectivement, si vous regardez bien là, cette pièce qui est très 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 vide hein, maintenant, mais elle attend juste que du passage, vous avez les bancs.
Qui sont d'origine alors.
Ouais, qui sont d'origine.
Une petite pièce de quoi, 40 mètres carrés, on sent un peu une réverbe effectivement dans le son, donc c'est typiquement un hall de gare quoi.
Ouais, c'est assez haut effectivement. Ensuite, vous avez une pendule qui vous donne les horaires... qui est censé vous donner l'heure pour savoir à quelle heure vous allez démarrer. Et le clou du spectacle, c'est quand même le guichet.
Ah, ici, là.
Voilà, le guichet avec une petite tablette attenante à une vitre où se masquait, où on pouvait entrevoir le chef de gare ou le contrôleur qui venait...
Le guichetier.
Voilà, qui venait prendre ses menus monnaie pour vous diriger sur le quai ensuite, quoi.
Alors, bon, voilà, là, c'est le hall d'accueil, donc, la pièce un peu principale du public d'ici qui pouvait utiliser ce train. Vous êtes là depuis 1998, c'est ça? Est-ce que vous avez eu, par moment, des visites d'anciens utilisateurs de cette gare-là, en tant que
ouais,
client?
Oui, c'est vrai que les bancs, maintenant, servent pour les gens qui sont... nostalgiques de ce passé-là, et ils viennent et ils sont vraiment obligés de se servir des bancs qui sont encore présents pour réaliser que le passé, pas si loin, mais quand même il est derrière nous et que ils ont vraiment besoin de s'asseoir pour croire en ces changements-là, en ces bouleversements, parce que le train à l'heure actuelle aurait peut-être sa place, hein, je ne sais pas, mais... En tout cas, ils nous laissent bien, nous, la place pour évoluer avec nos attelages.
Et du coup, voilà, oui, il y a eu quelques visites quand même
d'anciens
clients.
Ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup.
Curieux un peu.
Ouais, puis là, à l'heure actuelle, on voit encore pas mal de gens qui sont... qui aimeraient, qui voient et qui ont envie de toucher ce qui leur paraissait immuable, quoi.
Donc on est voilà, on va aller dans la partie hall. Alors là, on est donc on rentre ici.
La partie voyageur ici.
La partie voyageur. Donc on ouvre une porte, on passe dans. On devait dire le bureau quoi, c'est ça, le bureau du guichetier quoi. Enfin.
Là ouais, là partie, on y mettait effectivement bagages. On y mettait les bagages et là on a l'envers du guichet, hein, c'est le coffre-fort. Hein.
D'accord.
Avec. Bah avec son bordel et son tiroir caisse, quoi, hein, forcément.
Ok, c'était là, quoi.
Ouais, c'était là. Joli meuble, quand même, hein.
Ouais.
Alors, nous, on a fait que les tenir, les garder en l'état, hein. On a rien modifié. On a juste mis une petite couleur un peu plus fraîche sur les murs, mais voilà. Elle a toujours été bien entretenue, cette gare, parce qu'elle n'a pas subi de vide sanitaire.
Elle a toujours été occupée.
Voilà, à son démantèlement en 69, elle a été réhabilitée en base d'attelage. Donc, il y a eu peut-être 2-3 années d'atermoiement, mais.
Ok. Et alors, cette pièce-là, elle vous sert à vous d'arrière cuisine, de grande préparation pour
les pains de glace pour les roulottes, assurer la chaîne de froid à l'intérieur des roulottes.
Ok.
On a les tédoriers, on a les alaises sur les couchettes, on a. Tous les couverts.
D'accord, ça c'est un peu le stockage de la partie roulotte quoi.
Ouais, voilà. On a les popotes, on a voilà, toute la vaisselle qui est là.
C'est
voilà.
Le stockage.
Et si, bah oui, petit retour sur le passé, vu qu'on en était, mais voilà, on a quand même été obligé de tapisser nos intérieurs de ces 20 années que vous pouvez pas imaginer, mais qui ont été riches, yep. Dans l'absence, quelquefois. Donc, ça a été quand même...
Riche dans l'absence.
Alors on a... Non, mais je veux dire qu'on a été des fois inopérants. On a été un petit peu rêveurs, ce qui fait qu'on s'est laissé vivre. Mais c'est peut-être la partie haute de notre corps qui nous a aidés à nous retourner. Donc, c'était pas de l'inertie, loin de là. C'était juste un temps pour réfléchir et avancer, peut-être.
Voilà, tout en haut de cette pièce-là de stockage de tous les matériaux qui sont les ustensiles et tout ce qui concerne le stockage pour les roulottes, vous avez effectivement, on va dire, une cinquantaine d'affiches là qui reprennent un peu les différentes festivités, des organisations, des idées un peu politiques aussi, assez arrêtées sur certaines choses, une façon de voir la vie différemment. Alors ici, c'est...
C'est couchage. Hein, on a une cinquantaine de couchettes qui sont là en attente de clients.
Toujours le couchage, voilà, le stockage
toujours,
pour les roulottes.
Ouais, c'est toujours ce que tu as.
Des matelas.
Voilà, matelas, oreillers, lavage aussi. On met des machines à laver, des sèche-linges à disposition des clients qui sont en...
Qui sont en vadrouille avec vous.
Ouais.
Une belle armoire ici. Et alors, voilà, on arrive dans cette pièce qui est très lumineuse. Et donc moi, je pensais que c'était ici le hall de gare où les gens, où les particuliers... pouvait attendre le train, mais non, c'est pas ça.
Non, c'était pour réceptionner les marchandises. En fait, on avait une porte cochère dans son pignon nord, là, ici, qui réceptionnait les marchandises qui étaient amenées par les chevaux à l'époque. Donc le cheval reculait et faisait bêner sa cargaison pour se retrouver à l'intérieur du quai, dans la halle de marchandises.
Mais ici, c'est une halle de marchandises ici, quoi,
ouais,
en fait, c'est
et
ça.
Vous aviez les quais qui étaient attenants.
Donc on pouvait charger directement.
Et là, on pouvait charger directement, effectivement, les différents wagons qui se présentaient. Donc ça pouvait être toutes sortes de commerces. Ça pouvait être du bois, ça pouvait être des engrais, ça pouvait être du sable, ça pouvait être toutes les matières premières dont on a eu besoin. Ça a été aussi, je regarde le hangar qui est derrière, qui sert de remise pour les roulottes maintenant pendant la période hivernale. À l'époque, c'était un fabricant de poteaux pour l'électrification de la Bretagne. Il se servait du train pour acheminer les poteaux qui étaient moulés ici sur place et
qui partaient après pour
et
tout.
Qui servaient à l'électrification de nos campagnes.
J'ai pris peur de tes baisers, comme on prend peur des araignées, je ne savais plus où me planquer. Le fond du trou, l'envie de gerber, je n'ai toujours pas payé la facture d'électricité. Qu'est-ce qui a bien pu nous arriver? Nous ne sommes plus les mêmes depuis samedi dernier. Tu sais, je l'avais pourtant rangé avec l'échographie du bébé. Ne me secoue surtout pas, car je suis plein de larmes. J'ai perdu la force de prendre les armes. J'ai perdu la foi, j'ai perdu mon âme. Qu'est-ce qui a bien pu se passer depuis que je me suis fait licencier? Je perds la tête dans mes pensées, j'en oublie même de te toucher. Je n'ai plus l'écorce, j'ai perdu mon âme. J'ai perdu la foi, j'ai perdu le charme. Ne me secoue surtout pas, car je suis plein de larmes. J'ai perdu la force de prendre les armes. J'ai perdu la foi, j'ai perdu mon âme. J'en arrive même à t'oublier, parfois Clara. J'en arrive même à te trahir, parfois Clara. J'en arrive même à te maudire, parfois Clara. J'en arrive même à te trahir, parfois Clara.
Ah, vous avez des bonnes chariots, ça.
Je dis ça parce que les gens, comme ils connaissent pas la roulotte, ils trouvent toujours un mot différent parce que ouais. Ça les fait chier que ça existe encore.
Ah, on a fait de la pub.
Ah, c'est bien.
Il y a un couple qui est passé à côté, mais c'est super.
Eh, descends pas, toi, Lulu. Eh, tu restes dedans ou tu sautes vite là, mais tu restes pas à côté ouais. Du marché.
Ok. Descends et recule.
La courroie de recumant. Vous avez bossé un peu le jargon
Allez, doucement.
Allez, la main.
Ouais,
ça, c'est la crinière du poney qu'il a mangé ce matin. Ça.
Ouais.
Il a du mal à la. Non, c'est pas brancard, c'est pas jeune brancard. Fille Clotilde.
Elle reviendrait.
Ça y a intérêt, hein. Ça a été ?
Oui.
C'était mieux à être sous accompagnateur, hein, quand même, hein.
Ouais.
C'est mieux quand il y a un qui fait tout le boulot pour vous, non ?
Très, à la fin. Le trait, vas-y. Voilà.
Ouais, qu'est-ce qu'il me reste à enlever, là, Rémi ?
Les brancards.
Bon, parfait,
c'est
Rémi.
Bon. Tout est fait.
Allez, fais tomber ton brancard. Allez. Alhamdoulilah, on y va.
Allez, viens donc, Kino.
Allez, vas-y, regarde devant toi.
Allez,
c'est
bon, très bien.
Bravo, les enfants.
Ah, tu vois, je disais à Franck qui est là. Il dit que c'est dans 5 minutes, tu sais.
dans 15 minutes, mais c'était plutôt 5 minutes. Ah, il n'a pas pris. T'as pas semblé exprimer les mots.
À partir de là, on est parti de l'exprimer, mais j'ai l'impression que
ah oui. Bah, je pense qu'il a donné ce matin, parce qu'il était très dispo. Venu au fermeur.
Il n'y a pas vraiment de... C'est pas
compliqué, hormis
les croisements, mais... On est à Grenoble. On est à Grenoble. On va passer du coq à l'âne.
Oui. Les empreintes musicales. Franck Amouroux.
Alors on va reprendre le fil de l'histoire aussi, Nino, avec donc cette expérience de commercial en Afrique de l'Ouest.
Oui.
Ça dure combien de temps, ça?
Ça dure 3 mois.
Ah, oui, c'était assez court quand même.
C'était assez court. C'était juste pour avoir le visa, pour pouvoir prétendre à des permis et tout ça. Et puis c'était pour pouvoir voyager pendant 6 mois sans que les autorités viennent nous chercher. Donc on était vraiment libre après ces 3 mois de travail, mais on avait besoin de ce certificat de travail pour pouvoir continuer à voyager.
Donc, alors, plus que 3 mois de travail, vous êtes resté combien de temps en Afrique ?
On a fait 2 fois 3 mois, oui. Okay. 3 mois de travail et 3 mois de détente et vraiment de bonnes découvertes au sein de ce paysage africain-là, qui m'a amené, effectivement, et je te vois venir, Franck, mais tu vas parler de ma période parisienne, forcément.
Bah, bien sûr, puisqu'après après cette partie-là, nous, c'est un peu le concept de l'émission, c'est de découvrir un peu toutes les pages qui se sont tournées, les différents chapitres ouverts. Et donc, Nino, là, après l'Afrique, c'est Paris.
Eh oui, retour. Ouais, quasiment retour. Bon, ça a été un été juste avant des journaux dans le 7e arrondissement. Donc, ça allait.
Kiosquier.
Bonne clientèle. Ouais. Kiosquier, ouais, dans les Marigny, là, c'était des petits, c'était joli, des jolies architectures de kiosques là, et
ouais.
On a passé un été là, et donc du coup, j'ai réussi via des relations à me faire pistonner pour rentrer à la SNCF. De là, je suis parti pendant 8 ans sur la région parisienne. Après plusieurs essais en banlieue, Courneuve, Blanc-Ménil et Villeparisis, j'ai fini mes langues aidant sur l'aéroport de Roissy, donc sur la gare d'échange qui était en création à l'époque. Et ils cherchaient une brigade d'accueil, donc ils cherchaient des agents qui étaient polyglottes pour pouvoir diriger les touristes qui arrivaient sur Paris. Ouais.
Et parce que voilà, toute cette partie, c'était quand même plus cette partie de travail, de salaire, enfin de métier à la SNCF, c'était autour de l'accueil du public alors, des usagers.
Essentiellement. Donc, on avait le droit au contrôle également, mais on touchait pas à l'argent, donc on n'était pas guichetier, on était simplement diffuseur de bonnes informations pour les gens qui arrivaient ou qui repartaient.
Chargé d'accueil.
Sur les différents terminaux, et voilà.
Et donc à Roissy, alors ça a été la grande partie un peu de votre passage à la SNCF.
Oui, ouais, j'ai passé 7 ans là-bas. Hein. Après un an, je vous dis, en banlieue, à fréquenter la
faune.
La faune parisienne, ouais. On était à Comarca des Poissonniers, dans les bons quartiers, là, et bah, on était dans des foyers aussi. Hein. Il faisait pas 12 mètres carrés, mais...
Pour votre habitat à vous-même.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais
c'est les foyers SNCF, quoi, ouais, pour les provinciaux, en gros, quoi.
Voilà, et donc tous les 2 jours, on rentrait à la maison, vu que le train nous était offert. Toutes les 48 heures, on rentrait. Et là, effectivement, j'étais très bien. Hein, j'adorais, moi, le travail de contact comme ça.
Ouais, chargé d'accueil avec plein de touristes, qui demandaient des renseignements.
Vraiment, ouais.
Et ça fonctionnait ?
Ça fonctionnait super bien, super bien. On travaillait en 3-8, mais en 2-8, pardon. Mais c'était des horaires décalés, mais ça allait. On bossait le week-end, pareil, mais 2 jours de boulot et 2 jours de pause, ça allait aussi. Hein. On était déjà aux 35 heures, donc ça allait.
Et donc là, il n'y avait pas d'aspect financier, c'était juste du contact humain. C'est ce que vous vouliez, ce que vous préfériez aussi, quoi, à ce moment-là.
Ouais. Oui, je vous dis, on avait la faculté de contrôler, mais on était là juste pour aiguiller les gens et on leur disait, c'est pas bien, hein, mais bon, on les laissait passer quand même, quand ils étaient gentils.
Musical.
La vie à Paris devient quelque peu un peu lancinante. C'est une pression aussi ou pas? Est-ce que vous sentez un peu la pression du côté urbain, un peu de la ville, tout ça, ou non? Il n'y avait pas d'avenir vers là.
Voilà,
le métier ne suffisait pas.
Ouais, le métier était très très bien. Le métier était excellent. Mais comme bien des créations d'emplois et de découvertes de nouveaux services, il a été très 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 mal géré du fait de sa non rentabilité en fait directe pour la SNCF. Et on s'est senti un petit peu pas délaissé, mais disons que on faisait un peu voilà, on vivait notre vie en brigade. En brigade de 5 à 10 agents, et on passait nos journées à... voilà, on n'avait pas vraiment de... Hormis le fait d'être
cadre,
en contact... Ouais, voilà, hormis le fait d'être en contact, on était plus dans le...
Dans les métiers entre collègues.
Ah oui, vous connaissez comme moi ces zones d'influence, là, où vous trouvez 10 000 centres d'intérêt. Ça peut être... les homosexuels, ça peut être les putes, ça peut être les terrasses bonne journée, ça peut être les pickpockets, ça peut être les dealers, ça peut être pas mal de choses. Donc on avait différents différents centres d'intérêt en fonction de nos aspirations. Et on pouvait sympathiser forcément avec toutes ces forces en présence, mais on ne se sentait plus vraiment agent d'accueil destiné à aider les voyageurs, mais plutôt à les protéger.
Vous disiez, là, lorsqu'on préparait cette émission, Nino, tout à l'heure, à Paris, soit tu manges, soit tu es mangé.
Non, disons que soit tu vis avec, mais tu risques les pinces, ou soit tu rentres très vite à la maison. Ça veut à peu près dire ce que vous venez de dire, mais bon, à chacun de voir sa définition du manger, quoi. C'est très compliqué, en fait, parce que quand on est provincial et qu'on débarque en terrain... terrain pas miné, si, miné, mais du coup, on sait plus du coup de quel côté se mettre, sachant que on a un rôle de protection pour soi-même et aussi pour les gens qu'on est censé aider. Donc, quand on est jeune et beau comme moi, pas facile de résister à certaines tentations. Voilà, donc à vous de savoir, à nous de gérer notre quotidien et pouvoir s'exfiltrer au plus vite avant que ça devienne trop compliqué et d'avoir un passé ou un présent juridique, c'est jamais très très bon pour son karma, quoi.
Vous sentiez que vous aviez tourné mal?
Je tournais déjà mal, donc on pouvait se faire rattraper, c'était pas trop le problème, c'est de se faire coincer, quoi. C'était pas pareil. Donc il valait mieux là vraiment rentrer, donc je suis parti.
Personne pour hurler la nuit, que le vieux clochard sous le pont de Marie. Dans la ruelle, plus des matons, tous les apaches sont en prison. Il est si calme, ça sent le pourri. Paris va crever d'ennui.
Restons s'il vous plaît.
Paris sera aujourd'hui.
Merci à notre invité du jour, Nino, le gérant de la compagnie de roulotte à cheval à l'ouest, située à la gare de Locmaria-Bérien, entre Poulaouen et Huelgouat. On se donne rendez-vous ce même créneau horaire la semaine prochaine. Les empreintes musicales, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Bise, bisette, bisous, ciao, kenavo, à bientôt.
Dans tout Paris,
ah, il est où, Roland ?
C'est la ronde de nuit. Bébert et Wally.
Ronde de nuit. Il y a personne qui traque avec moi. Il faut l'arrêter. Deux rouquins.